et entra dans un vestibule pavé en marbre de couleur. Un nouvel escalier droit, avec un tapis rouge à baguettes de cuivre, s'appuyait contre les hautes murailles en stuc luisant. Il y avait, au bas des marches, un bananier, dont les feuilles larges retombaient sur le velours de la rampe. Deux candélabres de bronze tenaient des globes de porcelaine suspendus à des chaînettes. Les soupiraux des calorifères béants exhalaient un air lourd, et l'on n'entendait que le tic-tac d'une grande horloge dressée à l'autre bout du vestibule sous une panoplie. Un timbre sonna, un valet parut, et introduisit Frédéric dans une petite pièce où l'on distinguait deux coffres-forts avec des casiers remplis de cartons. Monsieur d'Ambreuse écrivait au milieu sur un bureau à cylindres. Il parcourut la lettre du père Roch, ouvrit avec son canif la toile qui enfermait les papiers et les examina. De loin, à cause de sa taille mince, il pouvait sembler jeune encore. Mais ses rares cheveux blancs, ses membres débiles et surtout la pâleur extraordinaire de son visage accusaient un tempérament délabré. Une énergie impitoyable reposait dans ses yeux glauques, plus froids que des yeux de verre. Il avait les pommettes saillantes et des mains à articulations noueuses. Enfin, s'étant levé, il adressa au jeune homme quelques questions sur des personnes de leur connaissance, sur nos gens, sur ses études. Puis il le congédia en s'inclinant. Frédéric sortit par un autre corridor et se trouva dans le bas de la cour auprès des remises. Un coupé bleu, attelé d'un cheval noir, stationnait devant le perron. La portière s'ouvrit, une dame y monta, et la voiture, avec un bruit sourd, se mit à rouler sur le sable. Frédéric, en même temps qu'elle, arriva de l'autre côté sous la porte cochère. L'espace n'étant pas assez large, il fut contraint d'attendre. La jeune femme, penchée en dehors du vasistas, parlait tout bas au concierge. Il n'apercevait que son dos couvert d'une mante violette. Cependant, il plongeait dans l'intérieur de la voiture, tendue de reps bleu, avec des passementeries et des effilés de soie. Les vêtements de la dame l'emplissaient. Il s'échappait de cette petite boîte capitonnée un parfum d'iris et comme une vague senteur d'élégance féminine. Le coucher lâcha les rênes, le cheval frôla la borne brusquement et tout disparut. Frédéric s'en revint à pied en suivant les boulevards. Il regrettait de n'avoir pu distinguer Madame d'Ambreuse. Un peu plus haut que la rue Montmartre, un embarras de voiture lui fit tourner la tête. Et de l'autre côté, en face, il lut, sur une plaque de marbre, Jacques Arnoux. Comment n'avait-il pas songé à elle plus tôt? La faute venait de Deslauriers, et il s'avança vers la boutique. Il n'entra pas cependant, il attendit qu'elle parût. Les hautes glaces transparentes offraient au regard, dans une disposition habile, des statuettes, des dessins, des gravures, des catalogues, des numéros de l'art industriel. Et les prix de l'abonnement étaient répétés sur la porte, que décoraient à son milieu les initiales de l'éditeur. On apercevait contre les murs deux grands tableaux dont le vernis brillait, puis, dans le fond, deux bahuts chargés de porcelaine, de bronze, de curiosités alléchantes. Un petit escalier les séparait, fermé dans le haut par une portière de moquette, et un lustre en vieux saxe, un tapis vert sur le plancher, avec une table en marqueterie, donnait à cet intérieur plutôt l'apparence d'un salon que d'une boutique. Frédéric faisait semblant d'examiner les dessins. Après des hésitations infinies, il entra. Un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Mais si la commission pouvait se transmettre... Non, je reviendrai, répliqua doucement Frédéric. Les jours suivants furent employés à se chercher un logement, et il se décida pour une chambre au second étage, dans un hôtel garni, rue Saint-Hyacinthe. En portant sous son bras un buvard tout neuf, il se rendit à l'ouverture des cours. 300 jeunes gens nu-tête emplissaient un amphithéâtre où un vieillard en robe rouge dissertait d'une voix monotone. Des plumes grinçaient sur le papier. Il retrouvait dans cette salle l'odeur poussiéreuse des classes, une chair de forme pareille, le même ennui. Pendant 15 jours, il y retourna. Mais on n'était pas encore à l'article 3, qu'il avait lâché le code civil, et il abandonna les institutes à la summa divisio personarum. Les joies qu'il s'était promises n'arrivaient pas, et quand il eut épuisé un cabinet de lecture, parcouru les collections du Louvre, et plusieurs fois de suite été au spectacle, il tomba dans un désœuvrement sans fond. Mille choses nouvelles ajoutaient à sa tristesse. Il lui fallait compter son linge et subir le concierge, rustre à tournure d'infirmier, qui venait le matin retaper son lit, en sentant l'alcool et en grommelant. Son appartement, orné d'une pendule d'albâtre, lui déplaisait. Les cloisons étaient minces. Il entendait les étudiants faire du punch, rire, chanter. Là, de cette solitude, il rechercha un de ses anciens camarades nommé Baptiste Martinon, et il le découvrit dans une pension bourgeoise de la rue Saint-Jacques, bûchant sa procédure devant un feu de charbon de terre. En face de lui, une femme en robe d'indienne reprisait des chaussettes. Martinon était ce qu'on appelle un fort bel homme, grand, joufflu, la physionomie régulière et des yeux bleuâtres à fleur de tête. Son père, un gros cultivateur, le destinait à la magistrature, et voulant déjà paraître sérieux, il portait sa barbe taillée en collier. Comme les ennuis de Frédéric n'avaient point de cause raisonnable, et qu'il ne pouvait targuer d'aucun malheur, Martinon ne comprit rien à ses lamentations sur l'existence. Lui, il allait tous les matins à l'école, se promenait ensuite dans le Luxembourg, prenait le soir sa demi-tasse au café, et avec 1500 francs par an et l'amour de cette ouvrière, il se trouvait parfaitement heureux. « Quel bonheur !» exclama intérieurement Frédéric. Il avait fait à l'école une autre connaissance, celle de M. de Sisy, enfant de grande famille, et qui semblait une demoiselle à la gentillesse de ses manières. M. de Sisy s'occupait de dessin, aimait le gothique. Plusieurs fois, ils allèrent ensemble admirer la Sainte-Chapelle et Notre-Dame. Mais la distinction du jeune patricien recouvrait une intelligence des plus pauvres. Tout le surprenait. Il riait beaucoup à la moindre plaisanterie et montrait une ingénuité si complète que Frédéric le prit d'abord pour un farceur et finalement le considéra comme un nigaud. Les épanchements n'étaient donc possibles avec personne et il attendait toujours l'invitation des Dambreuse. Au jour de l'an, il leur envoya des cartes de visite, mais il n'en reçut aucune. Il était retourné à l'art industriel. Il y retourna une troisième fois, et il vit enfin Arnaud qui se disputait au milieu de 5 à 6 personnes et répondit à peine à son salut. Frédéric en fut blessé. Il n'en chercha pas moins comment parvenir jusqu'à elle. Il eut d'abord l'idée de se présenter souvent.